Donc vous sentez déjà, vous avez la puce à l'oreille à l'époque d'un endoctrinement qui est en train d'arriver dans le pays en 69.
Oui.
Donc à combien plus forte raison en 75 il y a des choses qui sont pas tout à fait normales qui arrivent dans votre pays?
Oui, en 75, donc c'est pour vous ici en France, c'est la fin de la guerre du Vietnam.
Oui.
Voilà. Je sais que beaucoup d'intellectuels français sont contents que les États-Unis se sont cassés le nez, si vous voulez, la figure au Vietnam. Mais pour nous, en 1975, c'est la date de la victoire de la révolution Khmer Rouge qui a fait presque 2 millions de morts au Cambodge.
Alors, on était encore, si vous me permettez, Claire, au 20 avril où vous étiez invité à Paris.
Oui.
Et puis le 10 avril, c'est tout de même...
Le 10 avril, il n'y a plus
Il n'y a plus d'avion.
Il n'y a plus d'avion.
Alors, au moment de la révolution, donc qui va arriver quelques jours après, vous deviez être en France.
Voilà, c'est ça.
Et par un concours de circonstances, vous ne pouvez pas partir.
Je ne pouvais pas partir. Alors, mon mari m'a demandé de quitter la capitale, de quitter Phnom Penh, avec mon fils, et d'aller à Bath Thombong, chez mes parents, parce que nous avons pensé que Bath Thombong, c'est quand même une ville frontalière, beaucoup plus proche de la Thaïlande, et qu'on pouvait sortir plus facilement, si jamais les choses s'envenimaient.
Donc vous allez à Bath Thombong.
Voilà, j'allais à Bath Thombong le 10 avril, et le 13 avril, c'est le jour de notre nouvel an. Mon mari est venu nous rejoindre à Bath Thombong pour fêter le nouvel an Khmer.
Alors, là, les choses vont aller très vite ensuite, puisqu'il va falloir que vous partiez de chez vous, que vous abandonniez tout. Il y a une guerre, il y a carrément une persécution pour tous les intellectuels dont vous faites partie, dont votre famille fait partie aussi.
Oui, alors le 18 avril, si vous voulez, le 18 avril, Phnom Penh est tombé aux mains des Khmer Rouges. Et à Bath Thombong, les Khmer Rouges sont rentrés le 20 avril dans la ville, deux jours après Phnom Penh. Et alors, pendant les trois jours, c'était vraiment le désordre dans la ville. On ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. C'est vraiment un désordre. Et le 23 avril, les Khmer Rouges ont demandé à tous les notables d'aller à Phnom Penh pour recevoir le prince Norodom Sihanouk. Et le 24 avril, je dois partir, demande à tous les gens qui se trouvent à Bath Thombong de quitter la ville.
Vous d'aller où?
Sans but précis. Il faut simplement sortir.
Oui, ils pourront. Oui. Et quels ont été les... Comment on vous a expliqué cela? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Partez, c'est tout.
Ils nous ont dit qu'il faut partir à cause des Américains qui vont venir bombarder la ville. Mais cela, pour nous, c'était pas logique. Alors, ils nous ont demandé, comme dernier argument, de quitter la ville, comme un bodhisattva qui s'appelle Prevesendor, qui est très connu à Cambodge. Prevesendor, c'était quelqu'un qui a quitté sa ville pour aller chercher la vérité. Et nous, on nous demande de quitter la ville pour aller chercher une société nouvelle.
Donc ça vous parlait tout de même? Cela vous parlait?
Ça vous parlait. Je ne sais pas si ça me parlait vraiment, mais je n'avais pas le choix. Il fallait partir ou on sera fusillé sur place.
Ah, tout de même, déjà à ce moment-là, on vous avait pas laissé le choix.
Oui, on n'avait pas le choix.
Donc vous avez abandonné tout ce que vous aviez?
Ah ben, j'étais partie. Bon, j'ai pu quand même ramasser un peu de médicaments, quelques médicaments et un peu de vêtements. On a mis tout ça dans la voiture. Mais au bout de quelques heures, la voiture a été réquisitionnée. Donc, on n'avait rien sur nous.
Donc, en quelques minutes, de notables que vous étiez, d'une personne qui a été invitée d'ailleurs le 20 quand ils entrent à Bath Thombong. C'est le moment où vous devriez être invité à Paris, donc pour pouvoir aller un peu plus loin dans vos traductions en français, oui. Pour l'éducation nationale.
Oui.
Vous vivez tranquillement dans une demeure, enfin tout se passe bien et puis tout à coup tout s'écroule.
Oui, tout à coup tout bascule.
Et vous retrouvez comme ça dans la nature?
Mais je retrouvais en 48 heures, disons du 23 au 24, je me trouvais dans la nature sans rien, sans maison, sans rien et sans identité.
Votre famille était avec vous?
Il y a maman et mon frère, mon petit frère et une petite sœur. Et mon père et mon mari, bon, ils étaient partis à Phnom Penh, quoi.
Donc eux, ils ont été emmenés à Phnom Penh?
Oui.
De force? On ne sait pas trop.
Non, mais ils ont dit qu'il faut quand même qu'on y aille pour le prince Norodom Sihanouk. Donc, ils se sentent obligés quelque part d'y aller.
D'accord. Donc, ils sont allés pour une cérémonie.
Pour une cérémonie.
En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient.
Voilà.
Ce qui n'était pas le cas.
Ce n'était pas le cas. Ils ont été fusillés à quelques kilomètres de Bâtonnenville.
Dans ces deux jours-là?
Dans ces deux jours-là, oui.
Vous parliez de 2 millions de personnes qui sont décédées pendant ce génocide, durant 4 ans.
Oui.
Peut-être même un petit peu plus. En tout cas, beaucoup de torturés aussi, beaucoup de persécutions.
Beaucoup de persécutions et il y a beaucoup aussi qui sont morts de maladies.
Parce que vous disiez, donc vous, puisqu'on va suivre votre chemin maintenant, vous êtes dans la nature comme cela, mais vous n'êtes plus rien, parce que vous n'êtes pas habitué à cela. Vous êtes habitué à un certain confort, à une reconnaissance, et puis d'un coup, tout s'envole.
Tout s'envole. Il faut apprendre à vivre autrement. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à marcher pieds nus. Il faut apprendre à faire cuire le riz. Je ne savais pas allumer un feu de bois, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Apprendre à vivre dans la nature.
Il y a des gens qui vous aident pour ça?
Vous savez, les gens ont plus ou moins peur de nous, et nous aussi. Nous aussi, et on a très peur de notre origine.
Alors, on arrivait à le savoir, votre origine? On arrivait à la connaître, votre origine, quand on vous voyait?
Oui, en me voyant moins, mais si on m'écoute parler, oui. Parce qu'on a un langage qui n'est pas le langage des Khmers de la campagne.
D'accord, donc un langage plus classique, en tout cas, peut-être.
Oui. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle, souvent, on ne fait pas attention. Il y a des réflexes, des vieux réflexes, et puis il y a des accents. C'est comme ici, vous êtes du Midi, vous avez l'accent du Midi. Quand vous arrivez à Paris, on vous situe tout de suite.
D'accord. Non, mais on arrive mieux à comprendre pourquoi on reconnaissait votre origine. Donc, vous vous retrouvez comme cela, en pleine nature, sans rien. Vous disiez, j'ai perdu mon identité. Comment vous pouvez expliquer cela?
J'ai dit que j'ai perdu mon identité parce que jusqu'alors j'étais fière d'être une femme cultivée, fière de pouvoir mener ma vie toute seule. Alors dans cette campagne, dans cet enfer, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de choses, il faut que j'apprenne. Il y a tout un apprentissage. Et ensuite, je n'osais pas parler. Ça, c'est très dur. Je ne disais pendant 4 ans que oui ou non, presque, à cause de mon accent. Tout au début, la première année. Après, je me suis entraînée à avoir l'accent des gens de la campagne. Mais la première année, c'était le silence.